En partenariat avec Radio Grésivaudan, la commune de La Terrasse a fait l'objet d'une expérience sonore entre les mois de septembre et décembre 2014. Celle d'accueillir une radio mobile sur différents événements concernant les habitants. Partant du postulat que le micro est un bon alibi pour la curiosité, l'objectif était de proposer aux habitants d'utiliser les outils de la radio afin d'aller à la rencontre les uns des autres et questionner l'identité de cet espace collectif que représente un village. Un habitant en particulier s'est prêté au jeu de l'interview, Elio Lafont, 13 ans, que je remercie à nouveau pour son intérêt et sa motivation. 19 septembre 2014, interview de Roger Dubois, mémoire du village, en compagnie de Pascal, un habitant de La Terrasse.
Je suis arrivé à La Terrasse en 62. J'ai tout de suite vu que c'était un village qui était très intéressant. D'abord par sa beauté, moi je pense qu'il est très joli. Mais pour des raisons de famille, de logement et tout, on est arrivé à La Terrasse comme ça, avec un armé bagage, et, pour quelques semaines. Puis on y est resté 53 ans. Au début, on nous a un peu étudié, disons. Mais comme j'étais assez coopérant à discuter avec les gens, pourtant je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Et on a tous, ma femme surtout, à nouer, parce qu'elle, avec les enfants, on en avait 6 alors. Avec les enfants, elle a connu beaucoup de monde, les femmes, les mères, les, tout ça. Puis petit à petit, bon, on a été invité chez l'un, chez l'autre. Puis chacun racontait son histoire, et puis voilà. Et puis après, moi, j'ai été embauché par la commune pour m'occuper de la commune et du lac en même temps. Et là, j'ai encore connu beaucoup plus de monde. Et bon, c'est là que j'ai appris des choses. Et j'ai fait des petits articles que je mettais dans le bulletin municipal. Puis je me suis aperçu qu'il n'y avait pas une chronologie de tous ces événements. On aurait pu en faire une, mais disons que c'était... Alors j'ai préféré prendre article par article et les développer. Le problème, c'est qu'au début, il faut se méfier de ce que les gens racontent. Ils sont tout à fait de bonne volonté, mais ça a été brodé un peu. On a ajouté un zéro à ceci, on en a retiré un là. Puis il y a des choses qu'on ne sait plus si ça correspond à la vérité ou pas. Mais les gens étaient quand même très sérieux. Et ce qu'ils disaient, ça me paraissait tellement important que je dis c'est dommage parce que maintenant les gens viennent dans le village, ils envoient les enfants à l'école, ils s'occupent de leur maison, ils s'occupent de leur travail et tout ça. Et ils ne sauront pas. Maintenant, il n'y a plus de mémoire collective. Avant, les gens se réunissaient dans les veillées, par exemple, et puis alors ils se racontaient des histoires, ceci, cela, qui étaient plus ou moins fiables ou pas, mais dont on pouvait toujours tirer une vérité qu'on trouvait dans les archives de la mairie. Qu'est-ce qu'il y avait encore? L'histoire du château fort. Il restait des ruines, c'est sur la route de Montabon. Un jour, un monsieur qui me dit, mais moi je connais les histoires sur le château fort parce que J'ai trouvé dans la gorge du Car un boulet de canon. Et c'est quand le château fort était encore costaud, disons, et avec le château qu'il y avait dans la cascade, il se tirait dessus. Mais dans la cascade, il y a quelque chose qui dit que c'est un château, mais qu'on ne sait pas s'il a existé. Et ça m'intriguait tellement que j'ai demandé à quelqu'un qui travaillait à l'énergie nucléaire là, de voir analyser pour voir ce que c'est. Ce qu'on trouvait, c'était de la pyrite. C'était une bombe volcanique qui n'avait rien à voir avec le canon. À l'époque de la Révolution, on a beaucoup de documents. On a en particulier le cadastre de 1781. Où on voit le village avec ses limites, ses implantations, et on voit qu'il y a le bourg qu'on appelle le village principal, là où on est, et il y avait 6 hameaux qui étaient bien séparés de la commune, alors qu'à l'actuelle, tous touchent. Alors on avait le hameau du Car, le hameau de la Mure, le hameau de Montabon, puis le hameau des Combes qui a disparu, et le hameau de l'Achat. Et tout ça, c'était le village. Alors il y avait un notaire, avocat, toutes les corporations qu'on ne voit plus maintenant dans le village, charron, boulanger, charcutier, enfin, boucher. C'était vraiment une commune qui était bien charpentée. Hein. Il y avait, surtout dans la famille Pison-Klein, Meunier, il y avait des prêtres, il y avait des représentants à Grenoble dans certaines administrations ou machin comme ça. Je crois qu'ils ont participé à la Révolution, à la Déclaration des droits de l'homme. La cave coopérative a été bâtie en 1936. C'est-à-dire tous les coopérateurs se rassemblaient et la vigne a été plantée depuis la plaine jusqu'au sommet, à la roche, tout en haut. Et au début, chacun vendangeait pour lui, mais alors le vin, pour eux, il était bon. Mais disons qu'à l'heure actuelle, il accrocherait un peu, disons. Et après, le vin a été mélangé avec celui de la vigne de l'autre côté, qui n'avait pas beaucoup de degrés, et disons que ça n'arrangeait pas le vin de la terrasse non plus. Mais il faisait quand même du vin blanc, du vin rouge, du rosé et du mousseux. Et petit à petit, les anciens sont partis. La vigne, ça devait être trop dur parce que c'était du boulot, hein, la vigne. Surtout quand ils n'avaient pas les engins motorisés comme à l'heure actuelle. Et la vigne a été malade aussi. Et puis ils ont commencé à arracher la vigne, tout ça, et puis ça a disparu. Et tout est revenu en bois comme c'est à l'heure actuelle, quoi. Mais bon, ça a quand même pas mal d'hectolithes qui ont été fournis. Hein. Et ce vin alimentait beaucoup les hospices, les hôpitaux et les hospices de Grenoble. Et après, il y avait le hameau de Chauna. Alors ce hameau de Chauna, pourquoi il est au bord de l'Isère, là-bas, et qu'il y avait un port. Alors au départ, ce port existait bien, on en trouve trace dans les archives de la municipalité. À la place du port, on a mis ensuite un bac. Et ce bac a vécu pendant quelques temps. Puis ensuite, il a été remplacé par le pont. À quoi servait ce bac, disons? Alors c'était pour traverser les personnes, bien sûr, les biens et tout, l'armée, les canons. Tout le monde demandait pourquoi l'église était en dehors de la terrasse. Alors elle est en dehors de la terrasse, c'est encore plus accentué en ce moment à cause de la route nationale, mais cette route a été construite après la guerre. Donc avant, l'église était quand même dans la commune. Et pourquoi cette église était là? Alors il y a un vieux monsieur qui faisait une étude sur le chemin de l'empereur et qui m'avait dit, oh mais là ici, si on prend une carte de la région, et il y a égale distance entre la terrasse Montmeillan et la terrasse Grenoble. Donc c'était une étape de 25 km à peu près de chaque côté. Et qu'ils auraient construit là un relais, disons, qui par la suite serait devenu un lieu de culte. Et qu'ensuite, ils s'étaient construits sur Chauna une villa pour ravitailler tous ces gens qui passaient. Mais alors ça, c'est des suppositions. Mais parce qu'on n'a aucune archive, on n'a absolument rien, disons. Les anciens me disaient, oh, mais vous n'avez pas connu, vous, du temps de... Quand il y avait la terrasse Les Bains, ben oui. Il y avait un centre de cure thermale où les gens venaient et tout. Il y avait des hôtels pour les recevoir. Il y avait les restaurants, et ça paraît impossible quand on vous dit qu'il y avait des centaines de personnes qui venaient là, qui se faisaient soigner. L'eau de la terrasse avait du soufre, et elle soignait beaucoup de maladies. Mais on venait peut-être là aussi pour un peu de snobisme, où les gens ils faisaient des cures de raisin, des cures de petit lait, ils vivaient un peu sur ce qu'il y avait un peu de spécial dans la commune. Ensuite, ils avaient créé de l'eau en bouteille qu'ils expédiaient par la gare de Tansin. Enfin, la source n'a peut-être pas... Là où elle sortait de terre, on ne la trouve plus. Mais il y avait un plan où il est marqué le cheminement de cette source, de ce filet d'eau, jusque dans la gorge. Alors, ils avaient capté l'eau dans la gorge, tout en haut, là-bas, côté du lac Pingle-à-Cheveux, qui est sur la route de Montabon. Ils avaient redescendu dans le terrain qui est là, où il y a la sécurité sociale, et ils ont, faute peut-être de moyens, ils ne l'ont pas tellement bien fait. Et au bout de plusieurs années, la source a diminué, l'eau s'est perdue là-haut. Il y avait un tunnel pour aller voir, capter l'eau qui s'est effondré. Et donc, c'est la commune d'Alvar qui a repris les droits pour un certain nombre d'années. Donc, ça s'est arrêté comme ça. Ben, le tramway, ils ont fait le tracé de Grenoble jusqu'à Montmélian. C'était très, très fréquenté. C'était la meilleure gare du tracé pendant un certain temps, pas toujours. Parce qu'il y avait beaucoup de ils expédiaient du bois, ils expédiaient le vin, ils expédiaient, il y avait pas mal de choses. Et puis alors les gens qui descendaient à Grenoble. Maintenant, la gare, après, elle a servi de maison des jeunes. Et je ne me rappelle plus dans quelle année, ils n'arrivaient pas à l'entretenir, tout ça. Donc elle a été démolie et remplacée par rien. Après, la cave a été démolie, elle a été remplacée par le silo. Et après, tout a été remplacé par la place. Il y a eu d'abord toutes ces créations d'usines sur l'autre côté de la vallée, hein, sur les, qui alimentaient les papeteries, qui alimentaient, puis après qui ont produit du courant, surtout pour le tramway. Et il y a un monsieur qui s'appelait Baffert, qui s'est dit pourquoi on ne construirait pas une chute et une centrale dans le ruisseau du Quart. Et ils ont produit de l'électricité qui a permis d'éclairer la commune en 1880 par là. La terrasse a été une des premières communes, disons, à être éclairée. Et par la suite, c'est des petites anecdotes où dans la maison, il y avait deux interrupteurs. Un qui mettait la lumière, mais qui coupait l'autre. Il n'y avait qu'une lampe qui marchait à la fois, mais on pouvait aller d'une pièce à l'autre quand même. En 68, il y a eu les Jeux Olympiques. Et ils construisaient la voie express qui allait de Grenoble à Chambéry. Et ils cherchaient du gravier tout au long du tracé de l'autoroute. Et ils sont arrivés à la terrasse, ils ont trouvé, à côté de l'Isère, énormément de gravier. Donc comme les terrains appartenaient à la mairie, ils ont négocié avec le maire. Et le maire a dit, bon ben d'accord, on vous donne le gravier, mais vous nous faites un plan d'eau avec une plage, de façon à ce qu'on puisse l'exploiter en baignade. Et en effet, ils ont creusé le plan d'eau, ils ont remblayé l'autoroute, et ce plan d'eau, il est comme il est là, sauf qu'il n'y avait pas la partie sous-bois. Il n'y avait pas de camping, il y avait uniquement, mais ça a tout de suite été le grand boom. Et la commune a aménagé petit à petit, pendant quelques années, en créant des infrastructures de baignade, plongeoir, tout ça, cabine de déshabillage, barque, pédalo, tous les planches à voile. À l'époque, la planche à voile marchait beaucoup. Canoë. Les écoles faisaient du canoë avec des optimistes. Il y avait une école de plongée. Puis après, on a construit le camping, entre 70 et 80, par là.
Septembre 2014, journée du patrimoine avec une œuvre collective éphémère réalisée sur le parvis de l'église en utilisant différents matériaux bercés par les chants de Véronica Varcantin.
De toute façon, on démarre toujours quoi que ce soit comme création avec des bouts de chantier, hein, c'est ça. Hein. Donc c'était une bonne idée, moi, je trouve, d'ajouter des petits bouts à d'autres petits bouts et puis voir ce que ça donne. Puis chacun y mettra son grain de sel, je pense que ça va être super.
Le patrimoine peut être éphémère, du coup.
Oui, oui. Le temps, d'abord, je pense que le temps n'existe pas, d'une part. C'est nous qui le créons, hein. Le temps fait partie de notre façon de voir les choses, mais il y a quand même toujours quelque chose qui reste unique et vivant, donc, et qui reste éternel, je pense, hein. Donc pourquoi pas le fait qu'il y ait une création éphémère, elle a une empreinte énergétique, je pense, et au sein de... Ouais, au sein de l'univers, de, je sais pas, pourquoi pas.
Je vais garder l'autre bout pour le faire tenir.
D'autres choses peuvent faire partie du patrimoine, quelque chose d'éphémère, les, je sais pas, une sensation, une, le plaisir ressenti, voilà. Ça en fait partie, ça reste dans notre tête, dans nos cœurs.
Ah, oh, le joli bateau. Tiens.
Patrimoine. Du latin pater qui veut dire père et monis ça veut dire l'héritage en fait.
Moi je suis ferronnier, j'arrive dans un milieu d'hommes donc je transgresse un peu ça, l'héritage du père.
Vous participez un petit peu à l'installation ?
Oui, je rajoute quelques petites choses. Au départ j'étais pas très. Ça me paraissait vraiment le fouillis. Et puis maintenant. C'est vrai que c'est agréable de prendre part à cette œuvre collective, éphémère, mais c'est vrai que c'est drôle. Ça évolue. C'est pas toujours le chaos, malgré les apparences.
Petit texte de René Char, qui c'est « La France a des allures d'épave échouées dans une sieste ». Pourvu que les carignés et les charpentiers qui s'affairent à la restaurer ne deviennent pas de nouveaux naufrageurs. 1943 ou 4, voilà.
Le 27 septembre 2014. Jour de l'hommage aux résidents décédés de la maison de retraite Les Solambres, suite à un incendie en août 2013.
Chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes réunis pour honorer la mémoire des résidents décédés lors de l'incendie qui a frappé Les Solambres le 23 août 2013.
Là où on dit les gens sont égoïstes, c'est pas vrai.
Ouais,
c'est pas vrai. Dès qu'il y a une catastrophe, les gens ils se mobilisent et puis voilà.
Ouais.
C'est
au niveau des habitants.
Au niveau des habitants et puis au niveau de toutes les structures alentour. Quoi. On a eu des élus, les élus ont été là tout le temps. C'est vrai que le service du territoire du Conseil général, ils ont été là avec nous tout le dimanche. On avait des gens, alors à la permanence téléphonique le dimanche, on avait des gens qui téléphonaient de Rennes. J'ai ma maman là-bas, dites-moi, donnez-moi des nouvelles.
Ouais.
Donc voilà, non, c'était... Une expérience un peu curieuse, quoi, quand même.
Ouais.
Ça a été des bons moments aussi, parce qu'on a apprécié la solidarité des gens, quoi.
Ouais.
Et merci du fond du cœur à ce groupe de jeunes. Ils étaient sur un banc. Ils bavardaient tranquillement. Dès qu'ils ont vu les flammes, ils se sont précipités dans les étages avec courage, secourant nos parents, les soutenant pour les descendre, les portant. Ces jeunes souhaitent rester anonymes, donc je ne peux les nommer. Je vais mettre également à l'honneur les professionnels des Solambres.
Isabelle, je suis infirmière ici depuis 5 ans, aux Solambres, et j'ai eu le bonheur, l'immense plaisir d'accompagner les résidents, essentiellement Alzheimer ou non, avec un accompagnement dans un cadre non médicamenteux, qui est celui de la réflexologie plantaire. La nouvelle subitement à 7h du matin par la radio. Et on est extrêmement touchés. Hein. C'est sûr que. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai dévalé les escaliers dans une panique totale.
Moi, c'est Chloé et j'ai travaillé le soir où ça s'est passé l'incendie. Le 23 août, le soir. J'étais aide-soignante. Ça a été très dur pour l'équipe. Ça a été un choc. Un choc terrible, ce qui s'est passé. Mais personne n'oubliera, quoi.
Ma prénom ?
Oui.
Je ne me rappelle plus. Suzanne.
Qu'est-ce que vous aimez ici ?
Je ne sais pas, je ne connais pas.
Vous avez des copines ici ?
Je ne sais pas.
En tout cas, il y a votre fille qui est là.
Ma fille, elle est là. Ben, je suis bien contente qu'elle soit là.
Mais, hein, c'est difficile oh, ben alors, Mme Théron, vous aimez bien causer, elle aime bien la chanson, elle aime bien la poésie. Je m'appelle Isabelle.
Si le roi savait ça.
Voilà.
À la robe de dentelle, plus jamais. Ah non, je dis pas ça.
Si, 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 si.
C'est pas vrai.
Si, si, dites-le. Isabelle.
Si le roi savait ça. À la robe de dentelle, vous n'aurez plus jamais droit. J'aime bien Isabelle.
Jeannine.
Vous avez quel âge ?
84. Il y a eu le feu à la terrasse. Et on m'a évacuée à Ébain. J'avais horreur d'Ébain. Et c'est là que je me suis retrouvée ici. On évacue, il y a le feu. Ça fait un drôle d'effet, hein. Enfin, j'avais connu l'évacuation de la guerre, etc. J'ai déjà connu pas mal de trucs, hein, mais ça fait froid dans le dos quand même. Hein. Puis il y en a qui ne voulaient pas partir.
C'est vraiment un bel hommage, quoi. C'est somme, et voilà. On est sûr qu'on ne les oubliera pas, je trouve. Mais moi, je suis émue, mais pas peinée, quoi. Je trouve que c'est... Ouais, on est bien. On se sent bien, là.
Donc, je suis Raymond Cavalier. Je suis président de l'association des familles depuis 5 ans. Je suis musicien de métier et je participerai toujours en tant que bénévole. Je viendrai faire chanter les résidents de temps en temps.
Aujourd'hui, vous diriez que les résidents, ils sont comment par rapport à cet événement ?
Certains n'ont pas oublié, ils n'oublient pas. Parce que ça a été une nuit quand même difficile. Les résidents se sont retrouvés en pyjama, en chemise de nuit, avec des références autour du cou, dans la salle communale, et parce qu'il fallait faire attention qu'il n'y ait pas encore un résident. Donc certains l'ont vécu très très mal. On fait des cauchemars. Longtemps, ça reste dans la mémoire.
Je voulais dire qu'on avait un charmant directeur, qui est toujours de bonne humeur. Donc c'est pour ça que nous, on est de bonne humeur aussi. Hein. C'est lui qui nous apprend ça. Et puis, il connaît tout le monde. Ça, c'est merveilleux. Je suis personnellement enchantée de ma journée, de ma après-midi. Là. J'étais venue pas très chaude. Et puis alors, avec tout le monde qui est autour de nous, notre personnel soignant, notre directeur, qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque rien, avec l'espoir qu'il n'arrive plus ce qui s'est passé. Moi j'étais là, j'ai trouvé des gens avec qui j'ai donné la main pour descendre les escaliers, pour venir là, dans le parking. Et on avait mis des chaises et puis il y avait des couvertures et il fallait un peu se prendre soin de ceux qui arrivaient. Voilà.
Et c'est quoi votre prénom ?
Odette.
Et c'est quoi votre âge ? Si c'est pas trop indiscret.
Je vais vous dire, j'ai toujours oublié mon âge. Et je veux toujours l'oublier, mon âge. Moi, dans mon cœur, j'ai 20 ans.
5 octobre 2014, jour de la foire au maïs qui réunit de nombreux terrassons et habitants de la vallée, grâce à sa brocante et ses animations foraines et musicales.
Eh bien, la foire au maïs, c'est marrant, il y a plein de gens, mais c'est le seul truc, ça condense tout ce qui se passe dans toute l'année à la terrasse.
En fait, quand je me suis installée à la terrasse, je m'y suis installée parce qu'il y avait beaucoup d'associations, parce qu'il y avait des commerces, parce qu'il y avait une poste, parce qu'il y avait des bus, déjà. Et je connaissais un petit peu et je savais qu'il y avait déjà des terrassons drôlement sympas. C'est pour ça que j'ai décidé de m'installer à la terrasse.
C'est un village qui est accueillant.
Avec la foire, c'est éveillé, ça fait une sortie, quoi.
Ça fait longtemps que vous habitez dans la vallée ?
Ah oh ben oui, 80.
80 ans ? D'accord.
Oui. Okay. Oui, mais ça va.
Et vous avez connu un peu la vallée en mutation alors, du coup ?
Ah ben oui, dites, ça fait un changement. Hein.
C'est quoi qui a changé ?
Tout. Beaucoup de construction.
C'était comment quand vous étiez petite ?
Ben, tous les gens étaient les uns chez les autres, tandis que maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de familiarité les uns entre les autres. Puis il y a beaucoup de gens qui sont venus de Grenoble ou d'ailleurs. Alors ça, c'est pas pareil, quoi. Les gens, ils sont habitués en ville. C'est autre chose. n'y a pas la familiarité qu'on avait avant. D'abord, avant, on avait toujours tout de suite 3 vaches, et puis, tandis que maintenant, il faut en avoir des troupeaux. Et...
oui, ben, je... Bah, je suis un peu triste qu'ils fassent les travaux, hein, parce que y avait un petit pont vert avant. Bon, ils vont peut-être le remettre, il y avait des arbres autour, il y avait des renouées du Japon et tout. Et on jouait là, nous, on traversait le pont, on allait dans le terrain en herbe, bon, voilà quoi. Et puis maintenant, il n'y a plus rien.
Ah, je connaissais par le travail, moi, je passe plusieurs fois ici, je travaille ici, on y chantait. C'est pour ça que j'entendais après. Si l'internet c'est la brocante, je suis venu. Mais je connais d'avant. Ah, apparemment, c'est un bon coin, tranquille. Une fois, on a poussé, ça travaille ici, chanté, la mairie. C'est rénovation, on est chiant des placots. Un peu partout.
Je suis sur la place du village en ce moment, je suis en train de regarder le cèdre qui est en train de dépérir un petit peu, mais c'est une des choses qui m'avait marqué dans le village, cet immense cèdre et les quelques mûriers qu'il y avait à l'époque, qu'on ne trouve plus. Je ne peux plus ramasser de mûres sur mon arbre.
Alors, en fait, on a habité ici dans des HLM, des constructions passives, et c'est ce qui nous a donné envie de rénover une maison de manière écologique.
Là, il est 9h30 et j'ai envie d'aller me coucher.
Quand les vacances arrivent fin juin, début juillet, le soleil se couche très tard, les journées sont très longues. C'est très agréable de se balader, même après l'heure du repas du soir, se balader dans le village à ce moment-là, vers le coup de 21h. C'est des bons moments pour profiter de son village.
En général, c'est très agréable quand on se promène, parce qu'il y a toujours un sourire quand on se promène dans le village.
C'est un bon village, très bien. On a le lac, on a les étudiants, les touristes, ça va bien. Tranquille, pépin, bien.
Et au niveau des gens?
Oh, une bonne mentalité, hein. Ça va bien, bien, bien. Les citoyens, tous ils sont bien. Il y a pas mal de réunions aussi. Bah, c'est sûr, il faut participer, que tout le monde retrouve un peu, que tout le monde soit content, quoi.
Pour moi, il n'y a pas d'identité propre actuellement. Il y a une disparition de village que j'aimais bien quand je suis arrivée. Oh, c'était, je vais pas dire que c'était mieux, hein, c'était différent. Voilà, c'était différent, c'était encore, encore un peu la campagne, c'était une moins grande expansion.
On développe peut-être un peu vite en ce moment, mais ça reste un village à taille humaine. Les gens se connaissent dans le village, même je crois il y a peut-être 8 ans que je suis parti, mais je connais encore du monde. Il y a une vie dans le village. Quelqu'un, je pense qu'il continue là, mais Monsieur Dubois, je ne sais pas si vous connaissez, donc qui organisait des sorties dans le village. Et un jour, il m'a raconté, enfin il racontait, hein, qu'il y avait eu toute une histoire dans le village où il y avait des fantômes qui étaient apparus. Et les gens de le village, ils ne savaient pas ce que c'était, ils sont venus avec des fourches bah, pour faire fuir les fantômes parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Des gens qui étaient avec des draps blancs, qui apparaissaient, qui disparaissaient. Et il ne comprenait pas. Et un jour, j'ai eu un de mes stagiaires, dont je ne vous donnerai pas le nom, qui m'a raconté quand il était gosse, ils avaient joué à ce jeu-là, ils étaient deux. Et ils apparaissaient vers le château de la Terrasse, là-bas, avec des draps blancs. Ils criaient dans tous les sens, et puis ils disparaissaient. Puis l'autre copain réapparaissait 200 mètres plus loin. Et puis quand ils ont vu arriver les gens avec les fourches, ils ont arrêté, compris que la plaisanterie... En fait, c'était des enfants qui faisaient des farces, comme ça. Ils ont pris peur.
Le poids de la courge, elle est gagnée. 20 euros, trouvez le poids de la courge, elle est gagnée.
Novembre 2014. Rendez-vous citoyen en salle communale visant à construire une proposition de conseil de citoyens tirés au sort à la commune, histoire de redonner un peu de pouvoir aux gens et de les impliquer dans la vie du village.
L'objectif de ce rendez-vous citoyen, c'est de définir ensemble les modalités du tirage au sort du conseil citoyen. Donc après échange, il est proposé de tirer au sort parmi tous les habitants de la Terrasse, âgés de 16 ans ou plus, quelle que soit leur nationalité, qu'ils soient inscrits ou non sur les listes électorales. Un deuxième point qu'on a évoqué, c'était la durée du mandat. Guy, qui n'est pas là aujourd'hui, avait proposé un mandat de 2 ans, renouvelable par moitié tous les ans. Alors, il y avait eu un consensus sur cette proposition. Nous avions ensuite évoqué le nombre de citoyens à tirer au sort. Alors, on s'était accordé pour dire qu'une taille de conseil comprise entre 10 et 20 paraissait optimale. Finalement, le nombre de 19 avait émergé de la discussion en partie parce qu'il fait miroir au nombre de conseillers municipaux. Et le dernier point du coup restant à l'ordre du jour, qui est celui que nous allons donc évoquer aujourd'hui, c'est celui des modalités techniques et cérémonielles du tirage au sort. On avait tout juste commencé à en parler. Il y avait ceux qui étaient plus partisans d'avoir une cérémonie de type ludique ou de type officiel ou de type très discret ou au contraire très public. Donc...
22 novembre 2014, accueil des nouveaux arrivants du village avec petit déjeuner partagé et Elio, 13 ans, au micro.
Depuis quand êtes-vous installé dans le village ?
Bientôt 2 ans.
Avez-vous une famille à la terrasse ou des amis, des personnes proches ?
Pas de famille, une amie et je commence à connaître un petit peu de monde.
Quelle est votre profession dans la vie ?
Je suis retraitée.
Et avant que...
J'étais enseignante, institutrice.
Dans un collège
Dans une école maternelle.
Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce village plutôt qu'un autre?
Je le trouve agréable. Je cherchais un petit village dans un milieu rural. Et puis j'ai eu le coup de foudre pour l'appartement où je suis. Voilà.
Et où habitiez-vous avant?
Saint-Vincent-de-Mercus.
Ah bah c'est pas loin. Hein.
C'est pas très...
Quelles sont vos passions, vos centres d'intérêt?
Je lis beaucoup, je fais de la montagne, du vélo, je suis créatrice de bijoux, je transforme des boutons en bagues, des anciens boutons en bagues, et je fais beaucoup de couture, je customise, voilà.
Vous ne devez pas vous ennuyer alors la journée.
Je manque un peu de temps.
Avez-vous une famille à la terrasse, des gens que vous connaissez ?
Et non, parce qu'on vient juste d'arriver sur la terrasse.
Quel est votre métier ?
Je suis chargée de recrutement et gestion de carrière. Je recrute des banquiers.
Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce village plutôt qu'un autre ?
On a trouvé en tout cas la maison qui nous convenait sur ce village. Et puis on habitait Crolles dernièrement. Donc voilà, on voulait rester dans le secteur.
Quelles sont vos passions, vos centres d'intérêt ?
Je fais beaucoup de sport, beaucoup de randonnées en montagne, des randonnées pédestres, des raquettes. Je fais aussi, je suis collectionneuse de cartes postales de la Grande Chartreuse. Voilà un petit peu mes passions.
Depuis quand êtes-vous installée dans le village ?
Ça va faire pratiquement 2 ans. Je n'ai pas de famille à la terrasse. Je suis ingénieur dans la microélectronique.
Le 13 décembre 2014, Elio reprend le fil du micro pour interviewer les personnes présentes au repas des anciens.
Pouvez-vous me dire votre nom et votre prénom, s'il vous plaît ?
Brande André.
Pourquoi est-ce important pour vous de venir à ce repas ?
C'est important parce que ça me permet de revoir des tas de gens que je connais et que je n'ai pas l'habitude de rencontrer couramment. J'ai une anecdote qui concerne le lac. C'est quand un monsieur qui était en avion a voulu saluer sa fille qui était sur la plage et puis il n'a pas réussi à remonter avec son avion assez vite, il a accroché un peuplier et il est mort. Parce que son avion a plongé dans le lac et il en est mort avec un jeune ingénieur des ponts et chaussées. C'était un événement terrible, ça. C'était en quelle année, Dudu ? Juillet 69, voilà.
Nicole Calvi. J'étais là dans le village depuis mon enfance, mais quand je venais à la terrasse à l'automne, et ben, avec la cave coopérative, c'était des mètres et des mètres de tracteurs avec des bennes, avec des... tout le coteau était en vigne et c'était le village, je vivais au rythme de la saison, voilà, avec les vendanges, avec la cave coopérative.
Ça a beaucoup changé aujourd'hui.
À l'automne, il n'y a plus de fête, il n'y a plus rien parce qu'on ne se voit plus. Quoi. Dès qu'il fait mauvais, voilà, tout le monde est à l'intérieur.
Pourquoi est-ce important pour vous de venir à ce repas aujourd'hui ?
Pour retrouver mes copains, mes copines, les gens que je connais de la terrasse. Quoi, voilà. Je vis officiellement dans la terrasse depuis plus de 25 ans maintenant, mais j'étais à la terrasse parce que mes grands-parents y étaient.
Une écoute publique a été proposée le 19 décembre 2014 à la salle communale de la terrasse, sous forme de salon d'écoute, avec coussins et tapis, pour instaurer une détente propice à l'accueil des voix et des ambiances du village. Le résultat sonore de cette moisson radiophonique a duré une heure, entrecoupé de temps de parole et de réaction. Les sons livrés ici n'en sont qu'un condensé, mais vous pourrez les retrouver dans leur intégralité sur le site de Radio Grésivaudan dès la semaine prochaine, au www.radio-grésivaudan.org, dans les dossiers de l'émission La vie locale.